Vladimir Poutine sera reçu cet après-midi par Emmanuel Macron au fort de Brégançon. Notre invité pour analyser ce rendez-vous, Claude Blanchemaison, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été ambassadeur de France en Russie de 2000 à 2003. Vous avez publié l'année dernière « Vivre avec Poutine » aux éditions Temporis. D'abord, comment négocie-t-on avec Vladimir Poutine? Que faut-il avoir en tête sur son état d'esprit, sa psychologie?
Vous savez, quand il a voulu façonner sa biographie, c'est lui-même, pendant son premier mandat, il a souvent dit « je suis un spécialiste des relations humaines ». Alors en réalité, Vladimir Poutine évalue assez vite son interlocuteur et se programme sur le mode séduction ou sur le mode confrontation. C'est selon ce qu'il veut obtenir, c'est aussi un petit peu selon ses réactions, selon son humeur. On négocie avec Vladimir Poutine en étant cash, c'est-à-dire en mettant les choses sur la table, les sujets sur lesquels on est d'accord, les sujets sur lesquels on peut négocier, les sujets sur lesquels on n'est vraiment pas d'accord. Et je crois que c'est ce langage qu'il comprend, un langage clair, cash, et en effet, on peut traiter avec Poutine, mais c'est donnant-donnant.
Claude Blanchemaison, est-ce qu'il nous méprise au fond de lui, Vladimir Poutine, nous les Occidentaux?
Moi, je ne crois pas. Pas du tout. Pour des tas de raisons. D'abord, rappelez-vous qu'il y a très exactement 20 ans, fin juillet 1999, c'est à Biarritz qu'un oligarque est venu lui annoncer qu'on songeait à lui pour le nommer Premier ministre. Il était donc en vacances à Biarritz. Il aime la France, il aime la Riviera, il aime les pays occidentaux. Je pense que il a toujours été fasciné par les pays occidentaux. Quand il était en poste pour le KGB à l'époque à Dresde, en Allemagne de l'Est, il était évidemment fasciné par Berlin-Ouest, par la vitrine de l'Occident, par l'Allemagne de l'Ouest qui réussissait naturellement brillamment sur le plan économique. D'ailleurs, sur le plan économique, il n'y a aucun doute, il est pour l'économie de marché, il est pour un système fiscal qui favorise plutôt les entrepreneurs, qui favorise plutôt les riches. L'impôt sur le revenu des personnes physiques depuis 20 ans en Russie, c'est 13% taux plat, flat rate. Ce qui veut dire que il n'a rien d'un nostalgique du système communiste, il est sans doute nostalgique de la grande Russie sur le plan territorial, mais pas du système communiste.
Recevoir aujourd'hui au fort de Brégançon Vladimir Poutine avant le G7 à Biarritz samedi prochain, est-ce une façon indirecte pour Emmanuel Macron, qui va présider ce G7, de réintégrer Vladimir Poutine dans ce groupe des géants du monde? Je rappelle que Poutine a été exclu du G8 en 2014 après l'annexion par la Russie de la Crimée.
En effet, il a été suspendu il y a 5 ans, c'est ce qu'on a dit à l'époque. Je pense que en faisant cela, Monsieur Macron joue son rôle de président du G7, c'est-à-dire qu'il sera en mesure dans 5 jours de dire à ses 6 partenaires, voilà, j'ai rencontré Vladimir Poutine, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce que je lui ai dit, et voilà mon impression, mon jugement sur les sujets sur lesquels il est prêt à bouger, sur les sujets sur lesquels il est prêt à avancer.
Certains parlent d'une forme de complaisance à l'égard de Poutine.
Je ne crois pas. Je crois que Macron a compris qu'avec Poutine, il fallait parler cash, encore une fois. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs à Versailles lorsqu'il l'a reçu quelques semaines après sa prise de fonction à l'Élysée.
Mais qu'est-ce que peut espérer Emmanuel Macron de cette rencontre? Sur quel point Vladimir Poutine peut-il changer, modifier sa politique, son action extérieure, par exemple?
Le point clé, c'est évidemment l'affaire ukrainienne et le Donbass. Sujet sur lequel on a une feuille de route. La feuille de route, c'est évidemment l'accord de Minsk, qui date de février 2015, et qu'il faut appliquer, tout le monde le dit d'ailleurs, y compris Poutine. Il faut l'appliquer, mais il faut l'appliquer avec bonne foi. Des deux côtés.
Et que dit cette feuille de route pour ceux qui n'ont pas très bien suivi ce dossier?
C'est cet accord elle dit globalement que il faut d'abord un cessez-le-feu qui soit respecté sur la ligne de cessez-le-feu entre le Donbass et le reste de l'Ukraine. Deuxièmement, elle dit qu'il faut un échange de prisonniers, c'est-à-dire que les Russes rendent les prisonniers ukrainiens, que les Ukrainiens rendent les prisonniers russes. Il faut troisièmement qu'il y ait un dialogue politique entre Kiev et les autorités de fait du Donbass. Donbass, de Louhansk et de Donetsk, et que ce dialogue puisse aboutir à l'organisation d'élections surveillées par l'Organisation de sécurité et de coopération européenne, donc d'élections honnêtes, qui permettront ensuite que la frontière entre la Russie et le Donbass soit restituée à Kiev, ce qui est le point clé. Et vous savez que les sanctions économiques européennes sont directement indexées sur ce point.
Sur le dossier syrien, que va demander Emmanuel Macron à Vladimir Poutine ?
Bah, d'abord, il y a l'urgence, il y a la situation à Idlib, c'est-à-dire certainement que cessent les bombardements et que les actions humanitaires puissent se dérouler pour les populations civiles qui sont à l'intérieur de la poche de Idlib. Mais l'autre sujet, c'est évidemment la solution politique, parce qu'on peut dire que Poutine a sauvé Bachar, qu'il a peut-être gagné avec Bachar la guerre, mais il n'a pas gagné la paix. Pour le moment, il a été impossible de monter une conférence de paix et de rédiger une nouvelle constitution syrienne, de se mouler dans le processus tracé par l'ONU pour aboutir à des élections inclusives pour l'ensemble de la Syrie.
Bachar el-Assad est responsable de la mort de dizaines de milliers de personnes, des civils, dans cette guerre pour garder son pouvoir. Pour nombre de diplomates, c'est un criminel de guerre. Est-ce que Vladimir Poutine est lui aussi criminel de guerre? Il a envoyé son armée, son aviation pour soutenir Assad?
La Russie avait des intérêts importants en Syrie. C'est d'ailleurs un héritage de l'Union soviétique, puisque l'Union soviétique a formé beaucoup d'officiers syriens. Il y a même beaucoup de couples mixtes dans l'armée syrienne, dans l'armée de Bachar. Il y avait aussi cette fameuse base qui n'en était pas vraiment une.
Est-il responsable, co-responsable de la mort de dizaines de milliers de personnes, Poutine, en Syrie?
Par la force des choses, tout chef de guerre est responsable de mort, bien sûr. Et il y a énormément de dégâts collatéraux, comme on dit d'un terme un peu léger, c'est-à-dire de civils qui sont tués, de civils qui sont injustement tués, de femmes et d'enfants qui sont tués. Malheureusement, c'est la guerre.
Claude Manchemaison, sur le dossier du nucléaire iranien, quel rôle peut jouer Vladimir Poutine dans cet affrontement entre l'Iran et les États-Unis ?
Sur le diagnostic, il y a accord entre la Russie, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Il faut sauver cet accord. Poutine ayant de très très bons rapports avec les autorités iraniennes, eh bien il faut qu'il garde l'Iran dans cet accord et qu'il amène l'Iran à respecter cet accord et à ne pas prendre des mesures qui seraient dangereuses en termes de prolifération.
Si Emmanuel Macron aborde le dossier des droits de l'homme avec Vladimir Poutine, on voit actuellement des manifestations hostiles au pouvoir de Poutine. Toute remarque faite concernant les droits de l'homme, ça intéresse Vladimir Poutine ou il s'en fiche complètement ?
Bon, je pense qu'il répondra du tac au tac, comme il a l'habitude de faire, en parlant de manifestations en France, bien sûr. Mais je crois qu'il faut voir que Vladimir Poutine attachait une certaine importance à ce que la Russie retrouve sa place au Conseil de l'Europe. Et comme vous le savez, ça a été le cas au mois de juin dernier, puisque les députés russes, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, ont retrouvé leur droit de vote et que la Russie a retrouvé sa place normale. Nous sommes, cette année, en train de fêter le 70e anniversaire du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est quoi ? C'est aussi la Cour européenne des droits de l'homme. Et le fait que la Russie soit restée dans le Conseil de l'Europe, ça veut dire que tout citoyen russe peut faire un recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça, Poutine s'est tout à fait prêté à cette manœuvre. Il l'accepte.
Claude Blanchemaison, ancien ambassadeur de France en Russie, était l'invité de France Inter ce matin.